Une interpellation qui a failli virer au drame. La police municipale a procédé à l'interpellation d'un homme ce matin à Lanzvata. Il a tenté d'agresser les forces de l'ordre avec un couteau. L'entrepôt d'une société incendiée au Faubourg Blanchot, ça s'est passé hier soir. 21 pompiers et 6 engins ont été déployés pour maîtriser les flammes. La province sud confirme son soutien sur plusieurs dossiers importants pour la commune de Dumbéa. Sonia Baquès était en visite de terrain ce matin avec Cynthia Jean pour notamment parler sécurité et bien-être à l'école. La campagne électorale des conseillers municipaux juniors est officiellement lancée. Plus de 3000 écoliers devront désigner leurs représentants qui porteront les deux prochaines années des projets au profit de la jeunesse. La Société calédonienne d'ornithologie organise des patrouilles pour venir en aide aux puffins qui seraient blessés en cette saison. L'association propose pour cela de former des bénévoles. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Des policiers municipaux agressés dans l'exercice de leurs fonctions. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation d'un individu armé ce matin. Homme qui a tenté d'attaquer les policiers, Léo Fichou.
Oui, Alliance Police Municipale Nouméa salue sur ses réseaux sociaux le professionnalisme des agents. Dans un post Facebook, le syndicat explique que ce matin vers 7h, une patrouille est intervenue au complexe de l'immeuble Le Commodore à Lanzvata. Un individu porteur d'un couteau à viande perturbait la circulation et le début des activités des commerces de la zone. Lors de l'intervention, l'homme a tenté d'agresser les policiers municipaux, mais grâce à une maîtrise technique exemplaire, l'individu a pu être interpellé, mettant fin à la menace sans faire de blessés. Le syndicat Alliance Police Municipale Nouméa félicite, je cite, les agents pour leur sang-froid et leur professionnalisme, avant de rappeler que les policiers municipaux risquent leur vie à chaque intervention, malgré le volet social qui n'a toujours pas évolué. Fin de citation.
Et l'enquête se poursuit au Faubourg Blanchot après la destruction d'un dock de 200 mètres carrés hier soir. Mais Jean-François Baudin, l'origine criminelle de l'incendie ne fait aucun doute.
Il était 21h lorsque des individus sont entrés dans le dock de l'entreprise IPAC. Quelques instants plus tard, ils ont essayé de démarrer un véhicule. Ils n'ont pas réussi en raison du système anti-vol. Ils ont alors poussé la voiture avant de lui mettre le feu à proximité du dock. À l'arrivée des pompiers, la structure de 200 mètres carrés était entièrement embrasée. Ce matin, les experts sont passés pour faire les constatations d'usage aux côtés de la police. Face au doc calciné et à son outil de travail détruit, Michael Bournet, le co-gérant de IPAC, n'a pas caché son amertume.
Consternation totale, on a tout perdu. Il nous reste 3 véhicules. Plus d'outils pour les chantiers, plus d'outils dans les bureaux, plus rien. Voilà, c'est fini. On va voir comment ça se passe avec les experts, les assurances et la suite. Déjà que c'était extrêmement compliqué, quoi. Là, ça nous amène effectivement à certainement arrêter, quoi, définitivement. Mais moi, en tout cas, il est hors de question que je dise bah, « c'est fini et je repars ». Non, on est là, on reste et on continue, avec ceux qui veulent.
Vous aviez déjà eu des voitures brûlées en 2024 ?
C'est ça, ouais. Ouais, on a eu 2 véhicules sur le parking qui ont été brûlés, quoi. Ensuite, on nous a cambriolé 2 fois le conteneur aussi, quoi. Ils sont partis avec des outils. Et il y a moins d'un mois aussi, ils sont rentrés dans le bureau, je pense, pour faire une petite projection. Là. Et puis là, hier soir, ils ont fini ce qu'ils ont commencé. Quoi.
Et ce matin, les 3 salariés qui travaillaient dans le dock ont été renvoyés chez eux, tandis que les ouvriers ont regagné leur chantier pour tenter, tant bien que mal, d'honorer les commandes.
Sonia Baquès en visite de terrain à Dumbéa, accompagnée de la maire de la commune, Cynthia Jean. La présidente de la province sud a visité plusieurs structures. Elle s'est notamment rendue au CMK, le centre médical de Coutio, et y a fait plusieurs annonces concernant la sécurité. Charlotte Coulson.
Le renforcement des dispositifs de sécurité a été identifié comme l'une des priorités absolues pour cette nouvelle mandature, notamment dans les quartiers où les exactions sont nombreuses. Le CMK a par exemple subi 4 cambriolages ces 5 dernières semaines. Il fallait donc prendre des mesures importantes. Pour ce faire, une convention entre la mairie de Dumbéa et la province sud a été renégociée, passant de 35 à 53 millions de francs. Cette augmentation permettra de renforcer la présence de la police municipale sur le terrain de 20%, ainsi qu'un élargissement des horaires de patrouille, notamment la nuit. Cynthia Jean, maire de Dumbéa.
L'idée était de pouvoir leur apporter des solutions concrètes immédiates. Donc on a pu leur annoncer plusieurs choses. D'abord le renforcement des effectifs de la police municipale, puisque grâce à l'effort consenti par la province, on va pouvoir doubler le nombre de patrouilles, doubler le nombre de brigades, augmenter nos effectifs de police de 20%, ce qui est énorme. Et plus particulièrement sur ici la problématique des médecins, l'idée est de leur affirmer qu'ils ont toute leur place à Dimbéa et que nous allons déployer tous les moyens dont nous disposons pour qu'ils puissent continuer à exercer leur métier sans peur, sans crainte, et qu'ils restent dans notre commune.
Dans le détail, les patrouilles passeront de 4 à 8, le nombre de brigades de jour de 2 à 4, et la mairie annonce un recrutement immédiat d'une douzaine de personnels au sein de la police municipale. Ce renfort vient compléter une série de mesures visant à sécuriser le centre médical pour éviter que les médecins ne désertent la zone, ce que craignent les soignants restants. Le docteur Michel Azenfrat, c'est médecin généraliste au CMK.
La crainte que les médecins ne viennent plus, on l'a déjà. Depuis qu'il y a eu les émeutes, nous ne sommes plus que la moitié des médecins dans le Grand Nouméa. Et dans cette moitié des médecins, il y en a qui ont levé le pied. Nous, dans notre centre, on a gardé ouvert à tout le monde. Donc, on ne fait pas le choix de bloquer les nouveaux patients. On fait le choix de faire plus de gardes. En fait, on a doublé nos gardes pour assurer la continuité de soins. On travaille tous les samedis à 3, on tourne. En fait, on passe beaucoup plus d'heures de travail qu'avant. Pour l'instant, on tient. Mais on se rend compte, parce qu'on se connaît bien et qu'on a une bonne ambiance entre nous, on a moins de joie de vivre, qu'on rigole moins et qu'on commence à être plus vite démarrage au quart de tour par rapport à certains patients qui peuvent nous énerver un peu parce qu'eux aussi, ils n'ont pas le temps d'attendre. Parce que maintenant, on n'attend plus une heure, on en attend deux heures, quoi.
Et prochainement, une réunion de travail avec la gendarmerie et la police municipale devrait avoir lieu pour établir un plan d'action à court terme et lister l'ensemble des procédures dont les médecins ont besoin pour exercer leur métier en sécurité.
Et avant de parler sécurité, Sonia Bacquès et Cynthia Jean s'étaient rendues à l'école Gustave Klein pour annoncer le programme de climatisation des écoles. 53 classes seront concernées par ces installations. Un programme de 12 mois a été mis en place pour un montant estimé à 30 millions de francs et soutenu financièrement par la province sud, rappelle Sonia Bacquès.
C'est un programme qui est financé à 75% par la province, avec des panneaux solaires, hein, c'est-à-dire que les climatisations sont alimentées par les panneaux solaires qui sont installés sur les écoles pour que les mairies n'aient pas à assumer un coût de fonctionnement important et puis pour des questions environnementales. Partout où on a installé les clims, ça a changé la vie des enseignants, ça a changé la vie des élèves, donc je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de sujet, il n'y a plus de questions sur le sujet. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'apprentissage dans des conditions insupportables de chaleur en fin et en début d'année.
L'école Gustave Klein sera donc une des premières écoles à bénéficier de ces climatisations dans ses salles de classe. Une grande satisfaction pour sa directrice, Carole Djekic.
C'était attendu depuis de nombreuses années sur l'école de Klein. Dans les projets annoncés sur l'ancienne mandature, on était sur un projet avec une priorité sur les maternelles, ce qu'on comprenait parfaitement. Mais n'ayant pas d'élèves de maternelle, on avait bien compris qu'on passerait un petit peu en dernier. Et là, pour le coup, l'annonce change un petit peu, rebat toutes les cartes. Donc on est très content enfin de pouvoir climatiser nos classes, sachant que cet été, on est monté rapidement à 36-37 degrés dans les classes en début de matinée. Ça change vraiment. Moi, je viens d'une ancienne direction d'école où j'étais à Nouméa sur Vallée du Tiers à Grisselli. L'attitude des élèves sur les classes climatisées est tout autre. Et donc, ça a tout un impact sur la pédagogie, sur la concentration de nos élèves, sur le repos de nos élèves, sur le retour de cantine. Donc oui, la climatisation a tout son sens au niveau des écoles primaires.
La visite s'est poursuivie au centre de rugby de Dimbéa pour notamment faire le point sur l'état des infrastructures et les besoins du monde sportif. Enfin, dernière annonce faite ce matin, la province sud accompagnera la ville pour le remboursement de 50% du prix des stands des exposants de la fête de Dimbéa et de l'omelette géante, dont les recettes ont été fortement impactées par les mauvaises conditions météorologiques. Les équipes d'Enercal poursuivent leurs investigations après la coupure de courant généralisée qui a touché la Grande Terre hier à la mi-journée. Il est confirmé que l'origine de l'incident est due aux orages. La foudre a touché la ligne haute tension entre Yaté et Dimbéa. Les équipes d'Enercal tentent maintenant de déterminer les conséquences de cet impact de foudre qui ont conduit à un blackout qui a duré par endroits plusieurs heures.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Au lendemain d'un nouveau blackout sur l'ensemble de la Grande Terre, comprenez-vous qu'Enercal n'arrive pas à stabiliser et sécuriser le réseau électrique? Si vous le comprenez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 17h55, l'heure de marquer une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Léana Colombo.
Ce 4 mai, la date anniversaire du double assassinat de Jean-Marie Tjibaou et de Yewene Yewene. C'était il y a 37 ans, le 4 mai 1989 à Ouvéa, lors de la commémoration de la fin de la prise d'otages. Les deux leaders du FLNKS ont été tués par Djoubeli Wea, un Kanak indépendantiste extrémiste qui a lui-même été tué par l'un des gardes du corps de Jean-Marie Tjibaou. Et Jean-François Baudin, le FLNKS rend hommage dans un communiqué à ces deux leaders tombés à Ouvéa.
Oui, un hommage dans un communiqué très politique signé du président du FLNKS, Christian Théin, qui affirme que le peuple kanak n'a jamais accepté la colonisation et ne l'acceptera jamais. Il rappelle que le 5 mai, c'est aussi l'anniversaire de la signature de l'accord de Nouméa, accord historique de décolonisation permettant au peuple kanak d'établir avec la France des relations nouvelles correspondant aux réalités de notre temps. Pour le FLNKS, ces relations nouvelles ne peuvent s'exprimer que dans un statut avec la France et non plus dans la France. Il appelle l'ensemble des forces politiques du pays ainsi que le gouvernement français à s'engager dans un dialogue sincère pour construire ensemble un statut qui mette un terme définitif à l'engrenage de la violence. Et dans cette perspective, il estime indispensable d'organiser les élections provinciales avant le 28 juin 2026 avec le corps électoral actuel afin de redonner la parole au peuple et de relancer les discussions institutionnelles avec une représentation politique renouvelée.
Et ce matin, une messe a été célébrée à la chapelle de la tribu de Tiendanit à Yengen. Les proches se sont ensuite recueillis sur la tombe de Jean-Marie Tjibaou. À Marais également, un recueillement a eu lieu sur la tombe de Yewene Yewene et à Ouvéa, un dépôt de gerbes s'est déroulé sur la tombe de Djoubeli Wea. Le gouvernement réagit au drame de Bouloupari et à la mort, je cite, « tragique et accidentelle » de Roland Moisson, figure reconnue du monde du rodéo et vice-président de l'Association des cavaliers de stock de Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement rappelle que cet homme passionné et engagé a consacré une grande partie de sa vie au rodéo et qu'il incarnait les valeurs de courage, de transmission et d'attachement aux traditions rurales calédoniennes. Le gouvernement salue sa mémoire et adresse ses plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants, sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de la communauté du rodéo durement touchée par cette disparition. Rappelant que Roland Moisson a été tué le 1er mai par l'un de ses voisins après une dispute liée à la proximité des deux propriétés.
RRB, bonsoir, il est 17h58.
Des conditions de travail dégradées, des moyens matériels, pédagogiques et humains insuffisants et un accueil des élèves inadaptés, c'est ce que dénonce l'USTKE, l'UTCFEC, CGC, la FEDE et FO. Les syndicats ont déposé conjointement un préavis de grève pour l'ensemble des personnels du lycée professionnel Charlotte Coulson.
Demain, les cours ne seront pas assurés normalement au lycée Escoffier. L'ensemble des professionnels, plus d'une centaine de personnes avec leurs représentants syndicaux, attendent des engagements concrets à la suite, disent-ils, d'alertes lancées et restées sans réponse satisfaisante. Fabienne Kadoka, secrétaire générale du SFP au sein de l'UTCFE-CGC.
Le lycée est dans un état qui est désolant. Les toilettes, elles sont tellement dans un état de délabrement que les élèves, aujourd'hui, ne vont quasiment plus dans ces toilettes. Ce sont des salles de classe où il y a des fuites, ce sont des salles de classe où un ordinateur sur deux ne fonctionne pas, ce sont des salles de classe dans lesquelles, quand il pleut, il pleut dans la salle. Du coup, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Là, la première priorité pour tout le monde, c'est que les élèves du lycée Escoffier puissent avoir accès à une cantine. Là, aujourd'hui, sur à peu près 1200 élèves, on n'en a que 500 qui peuvent bénéficier de la cantine du lycée La Pérouse. Et le problème, c'est toujours le même, c'est l'absentéisme des élèves. Dès l'instant où vous obligez des élèves à sortir pour aller se nourrir le midi, quand il y en a beaucoup qui ne reviennent pas l'après-midi.
Les syndicats ont d'ores et déjà remis un cahier de doléances au gouvernement et au vice-rectorat. Ils attendent la communication d'un calendrier d'action immédiate, tel que la mise en norme des espaces, la tenue d'une commission de sécurité ou encore la réalisation des audits hygiène et sécurité. En attendant, la grève débutera à 8h demain matin.
Encore une semaine un peu particulière avec un vendredi férié et à l'approche de ce nouveau nouveau long week-end, la province Nord communique sur la fermeture de 13 CMS. Dès jeudi, le 7 mai, à 16h, 5 centres médico-sociaux de la côte ouest, Poya, Conné, Vaux, Calagomène et Poum, mais aussi 8 de la côte est, Ouégoua, Poindimier, Puibo, Ponériouin, Yengen, Wailou, Touo et Canala seront fermés. Ils ne rouvriront que lundi, le 11 mai, à 7h30. Concernant le CMS de Bélep, les urgences de premier secours seront assurées 24h sur 24 et les permanences de soins de 9h à 10h30, vendredi, samedi et dimanche. La province Nord appelle la population à la prudence et à la vigilance et rappelle qu'en cas d'urgence, vous pouvez contacter le SAMU au 15. L'OPT renforce son réseau mobile avec de nouveaux déploiements au premier trimestre 2026. 3 nouveaux sites, relais 3G, 4G et 4G+, ont été mis en service à Nouméa, Bouloupari et Canala. Objectif, améliorer la qualité et la couverture du réseau partout sur le territoire. Des évolutions qui permettent aux Calédoniens de bénéficier d'un réseau plus performant, plus stable et plus disponible, que ce soit pour appeler, pour naviguer sur Internet, pour travailler à distance ou encore pour utiliser les services numériques. Le conseil municipal junior de la ville de Nouméa, la campagne est lancée pour le renouvellement des élus qui représenteront les enfants de la ville, Léo Fichou.
Un scrutin qui est prévu le 22 mai prochain pour désigner des élèves des établissements primaires qui représenteront, vous le disiez, leurs camarades en exposant des projets auprès des élus de la ville. Aujourd'hui, les adjoints au maire de Nouméa et les conseillers municipaux se rendaient dans les 33 écoles élémentaires de la ville pour expliquer en quoi consiste cette élection, mais aussi pour distribuer le matériel de vote, des cartes d'électeurs, des enveloppes et le guide des CMJ. Diane Buduyer, 8e adjointe à la mairie de Nouméa, était à l'école de Rivière-Salée.
Bonjour les enfants.
C'est les prémices de ces jeunes citoyens, de leur engagement, de connaître également comment fonctionne du coup, l'institution et qu'est-ce qu'il en ressort de cet engagement citoyen pour les différents projets, pour le bien-être et l'amélioration de la ville. C'est aussi une sensibilisation pour certains parce qu'on est sur des classes de CE2. Les électeurs CE2, CM1 et CM2 découvrent ce qui vient de se passer pour les grands, comme ils le disent. Donc c'est vraiment pour eux une approche aujourd'hui de la démocratie et de comprendre ce que c'est et d'être vraiment impliqués et d'être nos futurs citoyens engagés. C'est leur expérience, leurs besoins, leur vision qui nous importe et c'est avec eux qu'on construit la ville de Nouméa. Les projets seront étudiés dans différentes commissions. On a vraiment cœur à impliquer toute la population et ça commence évidemment avec les enfants à l'école.
Et c'est un moment important pour tous ces jeunes en classe de CE2, CM1 et CM2. Anne-Sophie Michalak est la directrice de l'école Robert Burke.
C'est un exercice essentiel. Donc, pour les enfants, c'est un premier plongeon dans leur vie de citoyen. Donc là, c'est à nous, en primaire, où on a vraiment la possibilité de pouvoir travailler justement sur les droits, les devoirs et puis surtout la responsabilité dans ce vote. Les enseignants veillent justement à bien mettre en avant le projet et puis surtout les candidats que l'on sent les plus investis et engagés. Le CMJ, souvent, c'est séduisant parce que c'est vrai que le programme des enfants est plutôt sympathique, mais bon, ce que nous on attend aussi c'est d'avoir des élèves qui tiennent sur les 2 ans, donc ça veut dire aussi l'accompagnement des parents, hein, parce qu'il faut y aller, hein, il faut s'y rendre sur les missions du CMJ. On essaye de faire à l'avance ce tri, on va dire, hein, de bien expliquer que c'est une vraie responsabilité et que nous on tient d'eux parce qu'ils vont représenter l'école.
Et les jeunes candidats pour un mandat de 2 ans devront désormais se présenter à leurs camarades. Chaque binôme pour les 33 écoles de Nouméa devra respecter la parité, un garçon, une fille. Plus de 3000 écoliers participeront à cette élection.
La province Sud lance ce lundi la 6e édition de son budget participatif Mon idée pour ma province et invite les habitants à devenir acteurs de leur territoire. Un dispositif lancé en 2020 qui permet aux citoyens de proposer des projets d'utilité publique relevant des compétences provinciales répondant à un intérêt général et contribuant à l'amélioration du cadre de vie. La campagne de dépôt des projets est ouverte jusqu'au 19 juillet sur le site internet de la Province Sud. Un sujet dont nous parlerons avec Marion Bastogi, chargée de mission à la Province Sud. Nous parlerons également avec elle de l'appel à projet 2026 du Fonds pour le développement de la vie associative, porté par le Haut Commissariat et toujours à destination des associations du dispositif PEPIC. Marion Bastogi sera notre invitée demain matin à 7h30. Autre rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu, notre magazine citoyen, demain midi consacré aux enjeux de l'accessibilité pour les personnes malvoyantes, notamment à travers le braille. Pour en parler, nous recevrons Christelle Masseglia, directrice du service d'accompagnement social pour l'autonomisation et l'inclusion des déficients visuels. Jean-Yves Botteau, enseignant référent au vice-rectorat, spécialisé pour les élèves malvoyants et aveugles. Jérôme Chiosson, technicien formé à la réparation des machines Perkins, machine à écrire le braille, et Marie-Angèle, bénéficiaire de l'association Valentin Aoui. Que la parole se libère, c'est l'objectif de l'association Parole, Mémoire, Vérité et Réconciliation. Ces bénévoles ont mené entre octobre 2025 et janvier 2026 une série d'entretiens avec des habitants de Vaud. 59 Calédoniens, toutes origines confondues, ont été rencontrés au total. Cela représente près de 60 heures d'entretien. Ils ont parlé de leur histoire, de leur vision du futur, avec une question centrale: comment avancer vers un chemin de réconciliation? Et ce qu'il en ressort, selon Christophe Sand, membre de l'association PMVR, c'est que le poids de l'histoire pèse encore beaucoup sur les habitants.
De toute évidence, la société calédonienne, c'est une société fracturée aujourd'hui. On voit encore une fois dans toutes les communautés le sentiment que 1984 a été un point de bascule et qu'on n'est jamais revenu en fait à quelque chose de avant. Et les gens ont pleinement conscience que pour pouvoir avancer, aller de l'avant ensemble, il y a besoin d'un apaisement de ces fractures, et apaiser ces fractures ne peut passer que par accepter et donc étudier les souffrances que les gens portent en eux pour pouvoir les soigner et pour pouvoir quelque part les assumer.
L'étude de terrain menée à Vaud n'est que la première étape de ce projet pour lequel l'association a reçu le soutien de l'État. Elle souhaite poursuivre en organisant une collecte de données à Nouméa cette année. Il est 18h, passé de 7 minutes, seconde pause avant de parler sauvetage de pétrels avec la Société calédonienne d'ornithologie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Consacrer une soirée ou plus au sauvetage de puffins, c'est possible cette année car la Société calédonienne d'ornithologie a décidé d'ouvrir la participation à son dispositif SOS Pétrel aux nouveaux bénévoles. Après une petite heure de formation, les volontaires sont opérationnels pour patrouiller, Charlotte.
S'ils sont capables de rester des jours en mer pour pêcher et nourrir leur progéniture, les puffins adultes n'ont pourtant aucun mal à quitter leurs petits 3 mois à peine après leur sortie de l'œuf. Les jeunes puffins doivent alors se débrouiller. Ils prennent leur envol pour la première fois au mois de mai chaque année. Et l'expérience n'est pas toujours concluante, voire risquée lorsqu'on est proche des villes, nous explique Guillaume Juge. Il est bénévole à la SCO.
À partir de fin avril et jusqu'à fin mai, on a les jeunes puffins qui sortent pour la première fois du terrier. Ils s'envolent à la tombée de la nuit. L'instinct les pousse à aller vers la lumière de la lune. Sauf que des fois, la pollution lumineuse de la ville va les tromper. Ils vont foncer tout droit sur les lampadaires, les grosses lumières de Nouméa. Et arrivés sur la ville, ils vont se poser là où ils peuvent, donc des fois sur la route, des fois dans les jardins. À partir du moment où ils sont au sol, s'ils sont posés sur la route, ils peuvent se faire écraser par une voiture. Ou alors ils peuvent être embêtés par un chien, un chat. Entre guillemets, dans le meilleur des cas, ça va lui créer un stress et le fatiguer. Et il ne va pas être en mesure de redécoller. Et dans le pire des cas, il va avoir une fin tragique.
Et c'est pour éviter cette fin tragique que les patrouilles de sauvetage ont commencé leur ronde vendredi dernier. Elles se concentrent sur des zones accidentogènes. On parle de la baie des Citrons, Lanzvata, Magenta et notamment près des stades qui sont très éclairés pour les entraînements. Vendredi soir, les jeunes bénévoles ont fait leur première sortie, boîte en main, attentifs à la moindre trace de puffin échoué.
On va se séparer en deux équipes. Il y a une équipe qui va descendre sur la plage et l'autre équipe va longer la barrière de la CPS là pour regarder tout ça.
Je regarde au cas où, dans les coins, les recoins, si on découvre un tuffin, pour oui. pouvoir le mettre dans ces petites boîtes et pour pouvoir voir déjà dans quel état le pétrole est. Et en fonction de son état, soit demain il sera relâché s'il est en très bon état, soit il sera amené au parc zoologique. Parce qu'en fin de compte, je me suis retrouvée face à des situations où des élèves qui m'ont ramené des pétrels et ne pas savoir ce qu'il fallait faire. Donc moi, je les ai mis en boîte et je leur ai donné à boire en me disant c'est important de les hydrater. Et le lendemain, je les ai amenés chez le vétérinaire. Alors que là, je me dis, bon, la formation, elle nous donne les éléments importants en fin de compte de la conduite à tenir. Il faut ni leur donner ni à manger ni à boire.
Des patrouilles sont organisées tous les soirs pendant le mois de mai. Le réflexe à avoir si vous trouvez un oiseau échoué, c'est de contacter le 16, le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de Nouvelle-Calédonie.
Le sport dans la région, on parle haltérophilie avec vous Léo Fichou, puisque la semaine dernière, 6 athlètes calédoniens étaient au Samoa pour participer aux Océania.
Oui, une délégation composée de 3 juniors et 3 seniors. 6 athlètes qui ont tous performé selon leur entraîneur Marcus Meozzi. Les plus jeunes d'abord ont pleinement rempli les objectifs puisqu'ils sont tous les 3 montés sur le podium. Écoutez le sélectionneur calédonien Marcus Meozzi.
Grande satisfaction au niveau des résultats. Une médaille d'or de Henri et Athénée avec au passage record personnel. On a eu une médaille d'argent pour Mélissa Ortosi avec au passage record personnel. Et on a eu une médaille de bronze pour Zoé Magnetti avec également des records personnels. Qui est d'autant plus satisfaisant, c'est que tous les 3 ont matché jusqu'au bout contre leurs concurrents, principalement fidjiens, pour aller chercher leur médaille. Titre d'exemple, Henri a gagné la médaille d'or à 1 kg au total. Donc voilà, il y a eu des beaux matchs et chacun d'entre eux se sont battus jusqu'au bout, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc très fier de leur prestation.
Du côté des seniors, le niveau était nettement plus relevé, mais les 3 féminines calédoniennes engagées ont tout de même satisfait les attentes du coach.
Cindy, Rival et Adèle Simon, c'était une première compétition internationale hors du territoire. Donc l'idée, c'était déjà de prendre de l'expérience et de prendre ses marques. Se sont toutes les deux super bien débrouillées, se sont approchées de quelques kilos de leur record personnel. Donc voilà, une belle première prise d'expérience. Et du côté de Demi Dabin, ben, elle a fait le job largement en finissant sixième et en battant sans record personnel à l'arraché, sans record personnel à l'épaule jetée et sans record personnel du coup au total des 2 mouvements. Donc voilà, très satisfait aussi de la prestation de nos féminines seniors.
Et après la compétition, pas vraiment de repos pour les 6 athlètes calédoniens. Elles participent cette semaine à un stage de perfectionnement aux côtés des meilleurs de la région, tous les participants de la délégation des Samoa.
Merci Léo Fichou, on passe tout de suite à la météo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soitil, Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
La météo, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec aucune vigilance particulière. Cette nuit, les nuages se dissipent rapidement sur l'ouest où le ciel devient bien étoilé. A l'inverse, le ciel est souvent nuageux sur l'est avec des averses. Ailleurs, de belles éclaircies avec quelques ondées isolées aux Loyautés et sur la pointe nord. Le vent quant à lui s'oriente au secteur est et s'établit autour de 15 nœuds, sauf sur la côte ouest qui devient rapidement déventée. On termine Liana, si vous le voulez bien, avec les températures minimales qui restent élevées, comprises entre 19 et 24 degrés.
Mais si jamais je veux pas, vous continuez. Bon, merci beaucoup.
Excellente remarque.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le rappel des titres.